Bonjour tout le monde, bienvenue à la troisième épisode de la French Connection. Ce mois-ci, au mois de février, je suis avec Nicolas. Salut Nick.
Hey, salut.
Avec Guillaume.
Salut tout le monde.
Et avec Paul, qui est nouveau finalement sur notre podcast. Salut Paul.
Salut.
Donc Paul est maintenant en France ou tu es encore à Londres?
Oui, tout à fait. Du coup, là, je suis de retour en France. Voilà. Après 2 ans d'expat à Londres.
Excellent. Paul est un ancien ami, collègue qui était déjà venu au Hackfest dans les premières années. Donc, continuez à se parler maintenant sur le podcast avec nous. Donc, ce mois-ci, en fait, beaucoup de nouvelles formats de discussion, beaucoup de choses qui s'est passé au Québec. Et on va aussi avoir séparément, comme on avait discuté un peu dans les premiers podcasts, un segment technique. Donc, petite annonce, en fait, dans nos shameless plugs, les dates du Hackfest sont sorties. Le site web va être prochainement updaté. Ça va être le 3 et 4 novembre de cette année. Et les trainings vont être le 31 octobre, 1 et 2 novembre. Donc, on aura plus de détails dans les prochaines semaines pour ça. Première discussion, en fait, comme je dis, beaucoup de choses au niveau du gouvernement du Québec et du Québec en tant que tel. Social Engineering, la SAQ, qui est la Société des alcools du Québec. Donc, au Québec, on a le concept d'un ministère qui gère tous les alcools. Et ils ont sorti dans la dernière année une carte de points. Au lieu de donner des rabais en magasin, ça donne des points, puis plus que tu es alcoolique, plus que tu as de points. Le problème, c'est qu'ils ont récemment sorti une nouvelle comme quoi qu'il était possible d'utiliser les points sans être la personne officiellement. Donc, il y aurait un truc pour avoir le numéro de la carte de quelqu'un d'autre et d'aller en magasin et de se faire passer pour une autre personne et d'utiliser tous ses points, donc avoir de l'alcool gratuit, ce qui est assez intéressant.
Je pense que c'est un problème qui est assez commun avec les programmes de points. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de vérification d'identité, que ce soit les points du cinéma ou si vous prenez le train. C'est certain que les points, je sais pas, aéroplan, ces trucs-là, un billet d'avion va avoir votre nom dessus, puis c'est probablement plus difficile de rentrer à l'aéroport, mais il y en a beaucoup d'autres que c'est comme ça. Puis la carte de la SAQ aussi, vous pouvez la mettre dans l'application Wallet sur votre iPhone, c'est juste un QR code. Donc, j'imagine qu'il n'y avait juste pas de vérification d'identité. La seule raison, probablement, pourquoi on en a plus entendu parler, c'est que vu que c'était pour du vin, ben il y a des gens qui se sont attaqués instantanément, alors que peut-être quand c'est pour des billets de cinéma gratuits, il y a moins de personnes qui sont intéressées.
Clairement. Le seul point qui m'intéresse de savoir, éventuellement, s'ils le disent, c'est comment qu'ils utilisaient le code des autres personnes. Quand même, le numéro de la carte est assez gros. C'est pas une carte avec une bande magnétique ou rien, c'est vraiment juste un code à scanner.
Il n'est pas possible sur leur site de faire genre de look-up pour trouver des cartes valides?
Peut-être, puis c'est le point que j'ai pas eu le temps de valider, mais ça doit être relié à un
énumération
de user, de ID ou quelque chose comme ça. Il doit avoir quelque chose aussi du niveau informatique pour justement voler les numéros de carte. Donc, à suivre, mais quand même intéressant, c'est une des choses qu'on parle très peu souvent, comme Guillaume disait, sur tous les formats de cartes. S'il n'y a pas de demande de vérification d'identité à l'utilisation des points, c'est très simple de bypasser le tout. Et ils ont mis en place les règles justement pour forcer les employés à demander les cartes d'identité et autres. Et ça a l'air qu'il y aurait plus que ça aussi, mais qui n'ont pas voulu le dire par peur de compromission. Donc, un petit peu d'obscurité ici que si tu vas utiliser tes points, tu vas le savoir la première fois.
Mais moi, je trouve que tu sais une bonne bouteille pour avoir trouvé un bug d'énumération, ça pourrait faire un bon bug bounty. Fait qu'ils pourraient peut-être penser à établir ça dans le futur.
J'ai très hâte d'avoir un bug bounty, un au Québec et deux au gouvernement. Ça risque d'être assez long. Mais à voir. Deuxième nouvelle, un petit peu plus privacy, la SAAQ, qui est la Société d'assurance automobile du Québec, qui désire faire de la reconnaissance faciale pour les cartes de permis de conduire. Les cartes de permis de conduire, y aurait de la fraude qui se fait dessus pour générer des cartes et tout. Donc, à chaque fois, ils mettent des choses spéciales, des couleurs qui brillent ou whatever, la technique. Ils veulent mettre de la reconnaissance faciale à la photo pour faire des validations, sûrement avec la police et autres. Mais ce qui est sorti dans l'article, c'est qu'ils n'ont aucune donnée sur les fraudes, aucune statistique. Donc, ils ne savent même pas s'il y a de la fraude présentement, mais ils veulent faire de la reconnaissance faciale de tous les personnes ayant un permis de conduire, ce qui est une grande majorité des adultes de la province.
Pas mal, oui, mais il n'y a pas... la SAAC, les permis de conduire ne donnent que droit de conduire, donc c'est un problème limité. T'sais, on parlait plus de carte de RAMQ, là, ce serait vraiment problématique, mais SAAC...
Mais ça reste énormément de monde. C'est sûr que c'est pas la majorité comme la RAMQ, comme tu dis, qui couvre peut-être un 80-90% de tout le monde. Mais le nombre de personnes qui conduisent, c'est quand même des millions.
Oui, non, c'est pas le nombre de personnes. Autant que quand on a une fraude d'une carte de RAMQ, ben là, tu as accès à des soins de santé gratuits, donc c'est une fraude monétaire. Mais dans le cas d'une fraude... Donc, d'une fausse carte de la SAAC, à part rentrer dans les bars avant d'avoir l'âge, je vois mal l'effet réel que ça pourrait avoir.
Ah, ben, je pense que si c'est un faux permis de conduire, ça peut mener à pas mal d'autres fraudes d'identité. T'sais. Quelqu'un qui veut avoir une vraie bonne fausse identité, avoir le. Si tu as le permis de conduire, tu as une adresse avec une facture d'Hydro-Québec, quelque chose comme ça, c'est pas long que tu vas être capable d'avoir une carte d'assurance maladie. Là, une fois que tu as deux cartes d'identité avec photo du gouvernement, puis que c'est des vraies cartes, mais frauduleuses, mais là, après ça, il n'y a comme plus de limite. Mais. C'est quoi le threat model de qu'est-ce qu'ils essayent d'arrêter? C'est quelqu'un qui se présenterait. Mais on s'entend que s'ils ont l'information de reconnaissance faciale, c'est parce qu'il y a déjà eu une photo de la vraie personne qui a ce nom-là. Donc, est-ce que c'est vraiment pour empêcher quelqu'un qui ressemblerait un peu à la personne ou c'est parce que les employés ne vérifient pas assez bien ou c'est plutôt pour utiliser toutes les données de reconnaissance faciale pour d'autres fins? T'sais, on sait qu'une fois que la base de données va être là, il n'y a pas grand-chose qui va empêcher d'autres branches du gouvernement de l'utiliser. Donc, ça ne me surprend pas. Là. C'est comme une question de temps. D'après moi, c'est sûr que ça va finir par arriver, soit avec les permis de conduire et ou les cartes d'assurance maladie et ou les passeports.
Mais l'affaire à prendre en compte, c'est qu'au niveau des cartes et faire des faux papiers, la carte numéro 1 utilisée, c'est le permis de conduire. Quand tu dis que l'impact est plus gros, peut-être au niveau de la RAMQ, Nick, tu as raison. Sauf que le moyen d'avoir une carte de RAMQ, généralement, c'est de frauder la SAAC en premier, le permis de conduire en premier. Puis je pense que c'est un peu là que l'impact est. Mais ça revient que, comme Guillaume dit, si quelqu'un va prendre une nouvelle carte puis qu'il y a eu de la reconnaissance faciale sur la photo précédente, la seule différence, c'est que la personne n'est pas capable de valider la photo pour dire que c'est vraiment la personne en face. Mais la plupart des fraudes sont faites avec des employés corrompus. Donc, même avec la reconnaissance faciale, ben on s'en fout. L'employé va y donner pareil la carte.
Ben, à moins que le processus empêche. T'sais, si on avait la reconnaissance vocale, si on avait de la reconnaissance faciale, puis que le système bloquait, puis ça demandait d'escalader si jamais quelqu'un ressemble plus assez à son ancienne photo pour y redonner un permis de conduire, peut-être que ça pourrait améliorer un peu la sécurité. Mais je me demande, ça vaut-tu vraiment la peine, là, surtout si on ne sait pas c'est quoi la quantité de fraude?
Mais la finalité là-dedans, c'est de savoir si on sauve vraiment des coûts. Si la fraude associée vaut des millions, des centaines de millions, je peux comprendre qu'on puisse investir dans cette direction-là, mais si c'est juste que quelques centaines de milliers, puis on investit des centaines de millions pour régler le problème, en analyse de risque, c'est peut-être pas rentable.
Ça fait pitié en analyse de risque, c'est sûr. Puis l'autre chose, c'est qu'ils ont fait des démarches pour avoir quel logiciel est le meilleur au niveau de reconnaissance faciale pour leur environnement et tout, mais ils n'ont pas de statistiques. Ils ne savent même pas s'il y a une fraude. Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a une, mais ils ne savent pas.
Ou ils ne le disent pas, tu sais.
Oui, mais ce qui est encore pire, ils tombent en mode non-transparence. Là. Tant qu'à moi, au niveau de la vie privée et tout, j'imagine pas l'impact que ça peut avoir à long terme.
Oui, ben en tout cas, je vais faire une prédiction. Là. Si jamais ça se fait, je suis certain que d'ici 10 ans, il y a au moins une personne qui va s'être fait arrêter ou qui va être trouvée coupable à travers l'utilisation de cette base de données-là par une autre partie du gouvernement.
Yes. Par contre, ils sont vraiment pas ferrés pour partager l'information, mais ça pourrait être possible, évidemment. Paul, toi, côté Europe, ça fonctionne semblable ou...
Alors là, du coup, il y a pas du tout de reconnaissance de reconnaissance faciale ou quoi pour le moment. Tu viens juste, faut juste monter ton dossier en mettant ta photo, etc. Mais là, je vous entendais parler. Peut-être qu'il y a, alors je sais pas si ça se fait ça au Québec avec peut-être un système de procuration. Parce que tu sais, tout à l'heure, on disait bah tiens, quelqu'un qui renouvelle son permis et qui ressemble plus, par exemple, à sa photo. Je comprends, mais peut-être que ça pourrait être, par exemple, quelqu'un, tu vois, de la même famille et qui fait ça du coup par procuration. Par exemple, je sais pas, je suis à l'étranger, je perds mon permis, bon, et du coup, je demande à mes parents de retourner, par exemple, à la mairie ou à être dans une préfecture pour demander pour faire une nouvelle demande de permis. Je pense que peut-être que ça doit marcher. Et là, dans ce cas-là, je pense que je devrais faire une procuration, bien expliquer que mes parents sont autorisés à faire une demande de permis à ma part, etc. Alors, je suis jamais tombé dans ce cas-là, ni même des amis à moi, donc je sais pas si ça arrive, mais ça pourrait être quelque chose qui est déjà implémenté par des personnes, hein, pour faire de l'usurpation d'identité et se faire passer pour quelqu'un en disant bah tiens, j'ai eu la procuration, j'ai le droit de faire la demande de papier. Et là, du coup,
Je vois pas en quoi la reconnaissance faciale va aider.
Ah ben là.
Est-ce que ça nous on a des procurations surtout pour dans ce qui vient le temps de vendre une auto par exemple, tout ce qui est les plaques, les enregistrements, quelqu'un peut signer puis bon, tu vas à la régie puis tu transfères l'auto, ça c'est correct, mais
Ouais.
Je vois pas comment la reconnaissance faciale aide parce que la personne qui se présente, c'est pas celle qui est sur le dossier de toute façon. À moins qu'il y ait vraiment une relation, tu sais, une BD où ils savent qui est parent de qui, puis là, ils peuvent vérifier le lien d'identité entre les deux. Mais ça serait déjà possible avec le permis de conduire, de dire, ben oui, je suis vraiment le parent de cette personne-là. Ou nous, sur nos certificats de naissance, le nom des parents à la naissance est inscrit dessus aussi. Donc, c'est un peu bizarre, là. Je sais pas trop c'est quoi le threat model pour cette technologie-là.
Tout ce qu'on a là maintenant, à partir là en tout cas en France, c'est on a ces permis de conduire qui sont électroniques du coup. Donc avant on avait des papiers roses là, et là maintenant on a des permis. Alors je sais pas exactement c'est quoi mon permis à moi par exemple n'a pas été changé, mais du coup à la fin tu te retrouves avec une carte. Alors je sais pas si c'est du RFID ou si c'est une carte à puce ou quoi que ce soit, mais je sais que maintenant
ça doit être RFID comme les passeports ou similaires. Je pense qu'on a ça aussi pour les. On a certains permis de conduire qui permettent d'aller aux États-Unis sans passeport, puis je pense que c'est le même principe.
Ah peut-être, ouais. En tout cas, c'est.
Ouais, ça reste un autre dossier à suivre encore. Donc on va sûrement avoir un suivi des médias à ce niveau-là. Intéressant, mais en même temps un peu terrifiant au niveau de leur implémentation, même de la technologie qui peut être super à risque. J'imagine même pas la sécurité de cette base de données-là.
Ben, parlant de technologie, je pense qu'on a une autre nouvelle qui aborde ce sujet-là très précisément, right?
Yes, la prochaine nouvelle, en fait, qui est que le Canada, finalement, décide de mettre en place la loi sur la divulgation des vulnérabilités, comme un peu partout, États-Unis et autres, ont. Ce qui va aider énormément à prendre un état de conscience sur la sécurité, qui est principalement inexistante dans notre petit coin de pays au Québec. On en entend un peu plus parler au Canada, beaucoup de brèches et autres, mais ici, tout est dissimulé. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir comme impact. Mais la partie plate, c'est que le Québec va avoir sa propre loi aussi qui sera différente de celle du Canada. Donc, j'ai hâte de voir si elle va être beaucoup plus relaxe, beaucoup plus molle que qu'est-ce que les impacts canadiens vont être.
Ouais, ben, je suis pas un avocat, fait qu'évidemment, je sais pas trop qu'est-ce que ça voudrait dire s'il y avait les deux lois en même temps, laquelle s'applique quand, etc. Mais. Je pense que c'est une vraiment bonne nouvelle, puis c'est sûr qu'il reste à voir les détails, puis l'implémentation, puis tout ça. Là. Il y a manière de bien le faire, ou il y a manière de le faire d'une façon qui est un peu moins pratique, mais juste d'avoir quelque chose, ça risque... disons que les premiers 6 mois, on va avoir l'impression que, oh boy, il y a beaucoup de compagnies qui se font hacker au Canada tout à coup, mais en réalité, ça va être juste parce qu'on va en entendre un peu plus parler.
Oui, exact. C'est pareil de ce qui se passe dans les nouvelles. On en voit de plus en plus parler, mais c'est principalement les compagnies aux États-Unis qui sont obligées de déclarer le tout. Mais l'impact que ça va avoir, si c'est bien implanté, puis qu'il y a punitions, si je peux dire, qu'il y a des amendes et autres législations qui vont donner un impact au niveau des entreprises et peut-être même de leurs employés. De un, on va se rendre compte qu'il y a énormément d'entreprises qui se font avoir ici. J'ai eu des mandats à certaines places qui dissimulaient volontairement les attaques. Ils dissimulaient même à leur propre boss. Je veux dire, ils escaladaient rien pour pas avoir aucun impact. Donc, j'imagine même pas l'ampleur dans des centaines d'entreprises de qu'est-ce que ça a l'air officiellement.
Oui. Mais tu sais, c'est sûr que si quelqu'un veut dissimuler, c'est pas parce qu'il y a une loi qu'ils le feront pas.
Non, c'est
mais
sûr.
Ça peut être plus grave si jamais ça finit par se savoir, parce que souvent ça finit par se savoir de toute façon. Puis je sais pas s'il va. Est-ce qu'il y a vraiment des amendes qui vont être liées à ça ou quoi, mais je pense que juste le fait d'être obligé d'en parler, d'avertir les clients, puis de finalement avoir un impact sur sa réputation qui est un peu plus réel, ben déjà, ça va être comme infiniment plus que ce qu'on a en ce moment, fait que tant mieux. Je pense que la loi est déjà passée depuis 2015, mais elle n'a pas vraiment été...
Elle n'a pas été implantée officiellement. Oui, exact. La grosse différence, en fait, si quelqu'un veut le dissimuler, parce qu'il peut pareil, c'est s'il y a un impact à la personne, quand, si c'est découvert plus tard. Mais aussi, s'il implémente un genre de service de déclaration, un genre de Wikileaks, si je peux dire, là, de leaker l'information de manière...
Quoi, un genre de site qui est là pour la Russie pour faire élire Donald Trump? Non, c'est pas ça que tu voulais dire. Hein?
Non, pas vraiment. Non, plus une divulgation...
Un site pour des whistleblowers, en fait.
Ouais, exact, mais pour cette loi-là, principalement. Donc, si le whistleblowing existe au niveau de cette loi-là, ben quelqu'un qui le cache puis l'autre à côté ne le cache pas, les impacts risquent d'être assez majeurs.
Ouais. Ben de toute façon, t'sais, whistleblower ou pas, ça finit toujours par se savoir. Il y a toujours des données qui se ramassent quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui voit quelque chose de louche qui vient des adresses IP de cette entreprise-là. Il y a toujours des mots de passe qui se ramassent 4 ans plus tard sur Pastebin ou whatever. Fait que je prendrais pas de chance, même si j'étais moralement, disons, très douteux. Il me semble que j'aurais quand même peur de dissimuler s'il y avait vraiment une loi pour ça. Fait que j'espère que ça va être pareil pour tout le monde.
Exact. J'avais quelqu'un aussi sur la... Parce qu'on a diffusé cette nouvelle-là sur Facebook. Quelqu'un a dit, ben on a juste engagé une équipe de sécurité qui est vraiment pas bonne. Donc, ils détecteront rien. Donc, on n'aura pas besoin de le divulguer. C'est aucunement l'avantage de personne de faire ça.
De toute façon, c'est déjà ce qui se passe.
Et ouais.
Vraiment, vraiment beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup des trucs qui se sont passés, par exemple, aux États-Unis, qu'on a entendu parler. C'est pas leur équipe à l'interne qui l'ont détecté, c'est le FBI, c'est les compagnies de cartes de crédit. Donc, même si vous le détectez pas, mais s'il y a quelqu'un qui le détecte 240 jours plus tard parce que toutes les cartes de crédit de tous vos clients ont été volées à travers votre système, ça va savoir de toute façon. Fait que, mais sauf que c'est vrai, tu sais, souvent tu vois dans les nouvelles, on n'a aucune preuve que des données confidentielles ont été volées, puis des choses comme ça, mais oui, parce qu'on logue rien, fait qu'on n'a pas de preuves. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de ça dans les justifications que les entreprises envoient, puis tout ça, mais faut s'y attendre. C'est juste. Moi, en général, j'assume que si quelqu'un a attaqué une entreprise puis a rentré dans à peu près tout leur système, c'est parce qu'il y avait quelque chose à voler. Sinon, c'était pas très utile, tu sais.
Oui, mais en ce sens-là, on peut regarder ce qui se passe avec Yahoo, qui a encore eu une autre divulgation d'un autre problème qui est arrivé. Fait que plus on creuse, plus ça pue, plus on découvre de choses. Fait que c'est pas à l'avantage de personne. Ouais, puis là, c'est quand même une grosse entreprise qui a commencé de masquer des choses puis ça a foiré, là.
Juste un point, par exemple, là-dessus, si vous lisez bien... C'est un truc de cookie qui avait été disclosé en 2016. Là, c'est juste qu'ils ont commencé à avertir les gens spécifiquement qui ont été impactés. Fait que ce que j'ai vu un peu dans les nouvelles, c'était comme si c'était un troisième truc séparé. Mais si vous regardez dans les nouvelles, le feed aussi sur Twitter de Bob Lord qui est là à CISO, c'est clairement ce qu'il avait déjà divulgué l'année passée.
Oui, mais ça demeure quand même problématique dans l'ensemble que même une grande compagnie comme Yahoo masque des choses puis attendent des années avant de faire des affaires, là.
Oui, parce qu'il était au courant de ce problème-là. L'équipe de sécurité le savait qu'il pouvait faire ça. Donc, c'était un peu intense. Yes. Prochaine nouvelle, un autre ministère super intéressant. Une nouvelle intéressante à propos de ce ministère-là. Le CSPQ au Québec, le Centre des services partagés, utilise environ 600 serveurs de Windows 2003, 86 Windows 2008 et paye pour des licences de Windows 2012 et plus. Donc, ça crée un article...
Pas 2008, hein, 2000.
86 serveurs Windows 2000 ou 2000 serveurs Windows 86.
Damn you! 86 serveurs Windows 2000. Donc, l'article dit qu'ils payent pour des licences nouvelles, mais que tous ces serveurs-là sont en place, n'ont jamais été mis à jour parce que raison inconnue, mais on se doute qu'au niveau des projets, ça a dû bugger à quelque part.
Ouais, ben, tu sais, je pense que c'est pas la. Même en entreprise, il y a beaucoup de gens qui achètent des contrats avec Microsoft en se disant oh, on a accès à la dernière version tout le temps, puis finalement, l'utilise jamais. 86 Windows 2000, tu sais. Moi, je pense que c'est possible d'isoler 86 serveurs Windows 2000 d'une façon assez efficace, puis de les utiliser juste pour, tu sais, une application spécifique. Puis, mais on s'entend que c'est probablement pas ça qui se passe en réalité. Moi, je suis pas vraiment surpris, mais en même temps, je pense pas que c'est vraiment pire ces chiffres-là que qu'est-ce qu'on voit souvent en entreprise. Là.
Ouais, je pense que dans les entreprises, il y a énormément de legacy. Et qu'ils ont un gros problème avec les vendeurs pour arriver à faire en sorte que les logiciels qu'ils ont qu'ils puissent arriver à les faire tourner sur des plateformes plus modernes. Ça me paraît fou, hein, mais ça se voit, comme tu dis, ça se voit énormément en entreprise qu'il y ait des systèmes qui soient aussi vieux, hein.
Ben moi, ce que je trouve drôle, c'est que tout le monde dépense des millions pour next gen this, next gen that. On change nos agents d'endpoint, tout ça, mais tout ce qui est hygiène, qui est hardening, puis qui est d'avoir des versions qui sont up-to-date, puis bien maintenues, ben on laisse ça de côté. T'sais, l'industrie de la sécurité fait des milliards, mais en même temps, cet argent-là serait beaucoup plus utile s'il était juste dépensé sur des upgrades. Là, Windows 2003, on s'entend que à partir de 2008, il y avait quand même une assez bonne différence là, au niveau des logs qui sont vraiment plus détaillés, puis tout ça. 2003, c'est comme pas mal l'ancien temps, là, si on veut, en termes de Windows. Là. C'est XP serveur, mettons.
Oui, c'est sûr.
Oui, puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces legacy systèmes-là qui ne sont pas upgradés, qu'il y a pas de, la migration est déterminée comme étant qui coûte trop cher. Il y a des projets que j'ai vu et participé que ça roulait dans des technologies qui dataient de 10 ans. Puis personne n'est même capable de l'updater parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils veulent pas y toucher par peur de tout briser. Donc, ils laissent ça là, la direction approuve, le risque, c'est pas grave, mais au final, c'est une porte d'entrée énorme au niveau de la sécurité. Potentiellement même une perte d'argent quelconque, sûrement.
Puis je pense, dans ce cas-là, VMware a peut-être rendu ça un peu pire. T'sais, si on regarde avant que VMware et la virtualisation sur les CPU Intel deviennent vraiment populaires, fallait s'inquiéter un peu, tu sais, est-ce que mon NT 3.51 va encore rouler sur le prochain serveur compact que je vais acheter, ou est-ce qu'il sera pas compatible, tu sais, les drivers puis tout ça. Mais maintenant, l'aspect hardware est vraiment pas aussi important. Tu sais, je suis probablement capable d'installer Windows 3.1 sur mon Mac à travers VMware. Donc, il n'y a comme plus cet incitatif-là à être obligé de mettre à jour le système d'exploitation parce que le hardware ne fonctionnera pas. Puis aussi, les VM, ils survivent souvent vraiment plus longtemps que le matériel survivait avant. Tu sais, un serveur Windows en 2000, il durait 3 ans, puis on le changeait, on l'upgradait à une installation de Windows 9, puis tout ça. Mais là, non, c'est juste une VM, on l'amène, on continue de l'update. Tu sais, c'est complètement l'inverse de ce qu'on voudrait faire dans un environnement cloud où ce qu'on veut des VM qui sont éphémères, sécurisées, à boot clean, à fait qu'est-ce qu'elle a à faire, à s'éteindre, les logs sont centralisés, puis tout est clean. Mais on fait vraiment l'inverse dans le sens que la VM Windows 2000, ben, elle monte en Windows 2000, puis 17 ans plus tard, c'est peut-être même la même installation qu'à l'origine, qui a juste été amenée d'un host VMware à l'autre. Fait que, d'après moi, non seulement c'est des vraiment vieilles versions qui roulent là-dessus, mais ça ne doit pas être des systèmes qui sont super clean, juste étant donné leur âge et la gestion qui va avec ça.
Clairement, ça reste sûrement un méga fouillé.
Pour pentest, du coup, ça reste aussi un truc à chercher. Hein. À partir du moment où tu te fais un pentest en interne, justement, et trouver tous ces systèmes, tu vois, qui sont.
T'as pas vu les scopes de pentest que ces contrats-là ont en général, tu sais, c'est ouais. J'ai besoin d'un pentest sur telle adresse IP, sur telle part, puis en utilisant
tout à fait.
Un clavier qui est dans une langue que vous connaissez pas. Là, ça représente vraiment pas la réalité.
Clairement, c'est vrai que ouais.
Ouais, je sais pas c'est comment gouvernement en Europe, mais ici, quand on parle pentest, on parle d'un scan minimalement, très minime en fait, très scopées, miniatures. Ils veulent pas voir souvent la réalité. Puis quand il y en a beaucoup qui vont faire des... Ben, ça commence parce qu'il y a eu des règles de mise en place de vrais pentests qui sont obligés d'en faire un ou deux par année. Puis là, ben, ils commencent à se faire démolir 100%. On en a vu quelques-uns comme ça. Ça a un avantage, mais en même temps, ça fait peur à beaucoup de personnes qui sont pas en sécurité. Là. L'impact des rapports a une méga différence d'un scan qui dit que le port est ouvert. Là.
Ben, je vois, je vois. Ça, c'est l'un des problèmes du gros contest qui est... Ah bon.
Mais ça reste un gros sujet de discussion que ça parle toujours entre pentesteurs au Québec et hors du Québec. Mais évidemment, s'il y avait un scan interne comme tu mentionnes, ça pourrait être assez violent, trouver une centaine de Windows 2000.
Ah ouais, parce que du coup, ça c'est des choses, par exemple, que en tant qu'administrateur système, bah, du coup, tu pars à la chasse de ces systèmes. Tu vois, de te dire que tiens, t'as tous tes utilisateurs, peut-être pas tous, hein, mais une minorité qui va du coup utiliser des VM, alors j'en sais rien, pour faire des trucs, parce que peut-être que leur poste, tu vois, est complètement verrouillé. Du coup, ils se disent, bah tiens, au pire, j'ai un VMware, un VirtualBox, je m'installe ce que je veux dedans, et puis après, je suis admin de ma machine. Mais si tu te dis que le gars, justement, il fait pas forcément toutes les mises à jour de son VirtualBox ou VMware, bah, tu récupères.
Ouais, to bring your own VM, c'est sûr que ça amène un paquet d'autres problèmes.
Ah ouais, c'est clair. Enfin,
bon. Ouais, j'ai vu des bring your own serveur, je veux dire, certaines.
Mais tu sais, quand tu prends 8 mois.
Oui, c'est ça.
Tu sais, quand ça prend un an à avoir une VM, ou tu sais, c'est certain, là, les gens veulent travailler, fait qu'il y en a que c'est pas de façon malicieuse, ils vont s'amener leur propre équipement puis commencer à travailler, ou vont l'acheter à travers d'autres channels pour quelque chose qui est temporaire entre guillemets, puis finalement 2 ans et demi plus tard, il y a encore un serveur en dessous d'un bureau qui a pas d'update automatique, qui a pas de contrat, des fois la licence est peut-être même pas valide.
Mais à ce titre-là, j'ai vu la Caisse de dépôt ont une forme d'encadrement pour justement le bring your own server, là, qui permettent aux départements et aux gens de prendre des initiatives qui sortent du TI, mais il y a des requirements qui sont là quand même, qui doivent être appliqués localement. Puis s'ils ne sont pas faits, ils vont se faire taper ses doigts. Fait que t'as comme une espèce de... Genre, ça ne prendra pas 12 mois comme ça va se prendre dans le grand processus de l'entreprise, mais si tu ne fais pas ça comme faut en même temps, ben on va venir te slugger parce que tu mets en risque l'entreprise.
Oui, exact. Puis j'ai même, ça fait quand même plusieurs années, mais j'avais eu justement un test interne qui était un VA, un scan. Puis la raison officielle à la fin qu'on a su, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sorte les vulnérabilités, ils voulaient qu'on sorte leur inventaire qu'il n'y avait pas. Donc l'inventaire du scan est devenu l'inventaire de l'endroit. Puis on a trouvé justement des vieux Windows 98 puis des serveurs qui n'existaient pas à nulle part. Puis il n'y avait aucune idée physiquement, il était où. C'était assez drôle, mais c'est le genre de truc qui impacte. Mais que ce que tu dis avec la Caisse de dépôt, qui est une très bonne chose, mieux que ne pas encadrer puis se retrouver avec des surprises très bizarres. Puis des fois, la surprise bizarre, c'est que le serveur qui était acheté par l'équipe de dev est exposé sur Internet, pas updaté, etc. Ben, ça peut causer des méga problèmes.
Mais ça, c'est un des gros avantages du cloud. Tu sais, si vous roulez en Infrastructure as a Service dans Amazon ou dans Azure ou Google, ben, ce qui n'est pas listé par le pays, il n'existe pas. Fait que c'est très, très difficile d'avoir un serveur perdu quelque part que personne ne connaît, qui roule puis qui est exposé à Internet. Fait que ça vous donne plus de visibilité.
Yes. Prochaine nouvelle qui fit avec ce qu'on discute en fait, de le concept de mise à jour. Il est sorti une faille au début du mois de février, une faille sur WordPress qui permet en une requête web de mettre à jour un post sur WordPress sans être authentifié, sans rien. Donc, permettre de défacer une page web d'un WordPress, du CMS. Le lendemain que ça a été publié, la vulnérabilité a été découverte par Sucuri. Le lendemain qu'ils ont fait le rapport, des attaquants ont décidé de mettre en place un logiciel pour automatiser cette attaque-là. Et environ une semaine après, 1,5 million de sites web étaient piratés avec cette technique-là. Et parmi ceux-là, on a été notifié justement par le centre de données par quelqu'un que le centre de données 4 degrés, qui appartient, je crois, à Vidéotron, a été piraté de cette manière-là à Montréal. Leur page WordPress, là, évidemment, pas le back-end. Mais l'impact de dire « je fais pas une mise à jour d'un WordPress, juste un clic update », a cet impact-là qui peut être très énorme.
Oui, en plus des updates automatiques de sécurité sur WordPress depuis quelques années, mais c'est peut-être pas tout le monde qui les utilise. C'est beaucoup de customization, puis là, t'as peur que ça brise, puis tout ça. Mais
ouais.
Moi, je me demande, là, mélanger une vulnérabilité comme ça, puis peut-être un command injection ou quelque chose comme ça, il semble que la quantité de sites WordPress mal sécurisés ferait un méga beau botnet avec vraiment beaucoup de bandwidth, hein, parce que c'est tous des trucs qui sont hébergés en data center. Fait que ça serait peut-être plus puissant qu'un botnet de IoT. Ça risque de finir par arriver.
C'est dans le même scope, je veux dire, c'est la mécanisation des attaques, puis il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable et dire que okay, ça n'arrivera pas nulle part. Il y a c'est mécanique, ils scannent. Dès qu'une vulnérabilité sort, ça scanne tout de suite, ça part partout. Fait que si tu n'es pas protégé, ben, tu l'as en pleine face tout de suite.
Yes, dans ce cas-là, c'était moins de 24 heures à peu près que ça a débuté, le temps d'analyser le rapport puis de le programmer. Puis dans ce cas-là, c'était une vulnérabilité super simple, donc ça a été vraiment rapide. Il y en a certaines que ça peut être plus long, mais c'est une question d'heure généralement. Donc, quand on parle de vulnérabilité critique, il faut qu'il y ait un processus pour gérer.
Héberger WordPress, ça demande quand même pas mal d'attention parce qu'il y a beaucoup d'updates, il faut prendre des backups, des trucs comme ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas héberger leur propre WordPress et qui devraient utiliser WordPress.com aussi, hein, mais c'est tellement facile à déployer que plus facile à déployer, plus qu'il y a de gens qui vont juste l'installer une fois puis jamais se reloguer vraiment sur la page admin puis ça finit là. Mais éventuellement, ça va être un risque pour le reste d'Internet parce que si tu as 1,5 million de machines plugger dans des data centers en même temps qui un jour sont compromises en dedans de 24 heures, ça peut faire un beau denial of service.
Voilà, du coup,
ça, c'est à double tranchant parce que WordPress est quand même la plateforme la plus sécuritaire comparée à Joomla et Drupal. Mais en même temps, elle est excessivement connue et large, donc elle devient aussi dangereuse qu'un IoT qui vient faire exploser les DNS.
C'est pas juste WordPress, tu sais. Les WordPress, c'est une chose de base. Il peut y avoir les automatic updates, ça aide. Puis il y a moins de vulnérabilités WordPress maintenant qu'il y en avait il y a 5 ans. Sauf que les plugins WordPress, en général, la qualité, elle varie vraiment, vraiment beaucoup. Là, cette fois-là, c'est un truc WordPress, mais il y a des plugins qui sont très populaires, qui sont vraiment catastrophiques.
Oui, c'est la cata complète. Là, ces plugins, ça n'a aucun sens, là.
Donc, autrement dit, peut-être payer 15$ par mois pour faire héberger votre WordPress si vous n'avez pas le temps de prendre des backups puis d'installer les updates, c'est peut-être un bon investissement.
Mais ce qui manque, en fait, c'est rendre user-friendly une plateforme comme Jekyll du static HTML pour remplacer ces CMS dynamiques-là avec des bases de données puis du code dynamique qui peut être super, super vulnérable. Ouais. Mais présentement, quand on parle de Jekyll et autres, ça prend un minimum de tech savvy. Là, tu ne donnes pas ça à quelqu'un qui est juste webmaster pour écrire sur le web. C'est un petit peu trop, technique.
Si vous avez vraiment un site web, tu sais, WordPress très complexe, mais c'est pas nécessairement facile à répliquer avec les pages statiques.
Non, c'est
mais
sûr.
Déjà, peut-être de juste publier les pages, de garder toute la section admin absolument pas rejoignable de l'externe, ça limite quand même certaines de ces attaques-là, en plus de faire des updates automatiques. Il y a du hardening WordPress qui peut être fait aussi, mais encore là, c'est pas quelque chose que quelqu'un qui s'est pris un petit compte partagé chez iWeb, puis qui a fait clic next, puis qui a installé WordPress. Là, c'est vraiment ces comptes-là qui doivent être les plus vulnérables, mais c'est certain que ça arrive à des plus grosses entreprises aussi. Probablement juste parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe de leur site WordPress. Là, personne ne check ça. Puis,
c'est trop facile. Il envoie ça à la com. C'est les com qui gèrent le WordPress, c'est pas les TI. Fait que généralement, tu es comme dans une espèce de zone obscure. Mais il existe des plugins en WordPress qui permettent d'augmenter la sécurité, dont enlever la capacité de se loguer dans les zones admin ou changer les URL de base, un paquet d'éléments comme ça. Mais ça, c'est, tant qu'à moi, puis ça, tu en faisais référence dans l'autre podcast, ça devrait être la responsabilité de WordPress de changer les valeurs par défaut pour des choses random, que par défaut, ça soit configuré pour que quiconque l'installe se tire pas dans le pied.
Clairement.
Ouais, mais clairement. Faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'installations WordPress. C'est pas une installation qui vient direct de WordPress. Il y a plein de genre Panelbox puis d'autres trucs d'administration de sites web hébergés sur des serveurs partagés qui ont leur propre package, qui ont leur propre configuration. Fait que je peux pas dire, tu sais, j'ai pas installé un WordPress clean récemment. J'imagine que les updates de sécurité automatique, si quelqu'un déploie WordPress aujourd'hui, est probablement activé. Mais ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a un compte hébergé chez XYZ à Montréal.
Ouais, mais même, aux États-Unis, même au-delà de la mise à jour automatique, ce qui est quand même nécessaire dans le cas de WordPress, la configuration par défaut sécuritaire. Tu comparais XP à Windows 7, ou en fond XP avant le Service Pack 2, là, qui est effectivement l'espèce de moment ultime où Microsoft s'est réveillé. Dès que la config par défaut devient meilleure, puis on parlait justement de toutes les bases de données qui se faisaient polluer sur Internet. Si c'est pas par défaut, les gens ne le feront pas. Puis ça équivaut même en entreprise, on parle pas juste de la shop de papa maman dans le sous-sol qui font leurs petites affaires là. Fait que si tout le monde on n'a pas une config par défaut, ça nuit à tout le monde. C'est comme une forme de mesure de santé publique où on doit dire OK, si ton produit tu sors pas avec une config de sécurité par défaut de base suffisante, ben tu n'as pas le droit de le sortir parce que tu nuis à tout le monde.
Puis si vous repackagez des trucs qui sont open source, arrangez-vous pour que ça soit au moins aussi sécuritaire que la version originale. Parce que j'en ai vraiment vu là, des bundles WordPress fournis par d'autres compagnies qui ont leur setup automatique qui était pire ou qui avaient un paquet de plugins préinstallés, des choses comme ça. Puis c'est la même chose avec des fois certaines distributions Linux là, dans le nom d'une version d'un package puis elle n'est pas compilée avec les bonnes options. Des fois, c'est l'inverse. Il y a des fixes qui sont backportés puis tout ça, mais faites attention quand vous repackagez parce que vous devenez l'intermédiaire qui peut causer pas mal de problèmes. Tant à la personne qui a fait le logiciel, tu sais, qui fait mal à sa réputation à cause de l'impact, puis l'utilisateur aussi. Tu sais. Fait que les defaults sécuritaires partout, c'est clair.
Ça, c'est nécessaire. Puis j'ai déjà vu dans des logiciels commerciaux qui réutilisent des logiciels open source de façon un peu moins rigide. Fait que finalement, ils introduisent en entreprise parce qu'ils ont utilisé, ils ont piggybacké sur un open source, comme MySQL, par exemple, qui est probablement un des plus surutilisés. Puis ils introduisent en entreprise des problèmes parce qu'ils n'ont pas bien packagé leur solution. Puis c'est une solution commerciale. Fait que c'est super terrible là, pour les entreprises. Puis pour, imagine pour les petites PME qui n'ont pas les moyens d'analyser.
Oui, c'est clair. Vous êtes responsable de votre package de A à Z, tout ce qu'il y a dedans, les librairies, puis les autres trucs. T'sais, si vous roulez votre propre MySQL pour votre package, vous vendez un service WordPress X, vous devriez vous arranger qu'il soit au moins aussi sécuritaire que les trucs de base, qu'il soit au moins aussi facile à garder up-to-date.
Yes. Je pense que ce concept-là va revenir vraiment longtemps, toujours et encore. Là. Update, processus, c'est un fléau, mais en même temps, si on peut dire. Prochaine nouvelle, Creepware.
Oui, donc il y a un article qui est sorti sur Forbes, puis d'autres personnes qui en ont parlé un peu avec des détails différents. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des compagnies comme Hacking Team en Italie, puis d'autres compagnies qui font des logiciels un peu douteux pour les gouvernements qui veulent espionner des utilisateurs de téléphones Android, téléphones iOS, puis des trucs comme ça, donc qui font des systèmes de remote control, qui essayent d'exploiter des vulnérabilités qui sont des fois connues. Dans d'autres cas, c'était des zero days dans les versions gouvernementales. Ben là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont vendus pour espionner des utilisateurs de téléphone, mais pas pour les gouvernements. Donc, par exemple, Pat pense que je suis sur un autre podcast puis que je le trompe avec son podcast.
Traître.
Il installe une application sur mon Android pour m'espionner partout ce que je vais, puis qu'est-ce que je dis, puis mettre mon micro à on quand il veut. Il y a beaucoup de ces applications-là qui sont vendues de façon commerciale. Déjà, je trouve que c'est pas mal shady. C'est une catégorie d'applications qui devrait juste pas exister, mais qui partagent leur code. Il y a beaucoup de code qui est très, très similaire entre les plateformes que les compagnies vendent au gouvernement pour espionner les terroristes et autres ennemis de l'État, puis ce qui est vendu pour espionner sa femme ou son mari. Donc, il y a vraiment, tu sais, des différentes entreprises qui partagent, peut-être qui appartiennent aux mêmes personnes. Fait que c'est un peu, c'est pas très surprenant, tu sais, c'est pas mal le code similaire Mais c'est, puis qu'il y a deux façons de faire terrible. L'argent avec, je ne suis pas surpris qu'il le fasse. C'est un business model qui est terrible.
C'est de l'extrême monétisation d'espionnage de tout le monde. C'est qu'ils n'ont aucune éthique, finalement.
Ben non, je pense pas que c'est quelque chose qui rentre en considération dans ces entreprises-là. En général, là, t'sais, on se rappellera du nombre de fois que ces entreprises-là disent « on vend pas à des mauvais gouvernements, blablabla », mais il y a toujours une façon, un revendeur, ta-ta-ta, puis ça se ramasse un peu partout. Mais en plus, il y a d'autres entreprises qui utilisent le même code, mais qui le vendent directement à des end-users à travers des sites web où on peut acheter un petit APK, on prend un téléphone qui est déverrouillé, on installe ça dessus, puis merci, bonjour, on a le remote control. Donc, c'est des applications qui étaient déjà connues, mais je pense vraiment la nouvelle là-dedans, c'est que le code est partagé entre les deux plateformes. Fait que, comme tu dis, c'est la monétisation de leur plateforme à l'extrême.
Et ça, quand même... ça a été découvert comment, justement, qu'une partie de code était similaire? C'est quoi, ils ont reversé l'appli et ils se sont rendus compte qu'il y a des similarités avec ce que vendait...
Ouais, exactement. Il y a eu des similarités dans le code. Il y a des similarités au niveau des domaines, des adresses qui sont utilisées pour le remote control. En gros, on pourrait dire qu'il y a des indicators of compromise un peu similaires entre les deux versions par les deux compagnies pour les deux use cases.
Donc en fait, ton data, il part chez Hacking Team, quoi.
C'est ça.
Ouais, ben, c'est pas nécessairement direct chez Hacking Team dans ce cas-là, mais il y a plusieurs compagnies là, qui sont impliquées. Puis je me souviens, il y en avait au moins une où c'était le même host name qui était utilisé par les deux plateformes.
Wow. Ah, c'est.
Ah, pourquoi pas faire de l'argent, hein, c'est ça.
Bah, en fait, ouais, c'est exactement ce qu'ils se disent. C'est on a une techno entre guillemets qui marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le segmenter différemment. Tu le revends à des états et ça va te coûter très cher. Et du coup, ça va être, tu vois, du marché de niche. Ou alors, autrement, tu t'attaques aux end-users. Et là, du coup, potentiellement, bon, les licences seront moins chères. Mais à côté de ça, tu peux te faire beaucoup plus d'argent parce que tu as beaucoup plus d'utilisateurs qui veulent espionner sur des personnes. C'est vrai.
De toute façon, je pense qu'une fois que tu l'as vendu à un dictateur qui veut espionner des activistes pour les droits de l'homme, la portion éthique, elle t'inquiète plus vraiment. Fait que, tu sais, une fois que t'es rendu là, why not?
Mais non, c'est juste un revendeur. Voyons, qu'est-ce que tu dis là? Yes. Donc, sur ces paroles très creepy, ça fait le tour de notre podcast pour ce mois-ci. Prochaine partie que, comme on a expliqué, va être diffusée en segment spécial et différent, va être le segment technique de Guillaume, qui va nous parler de la sécurité des Active Directory de Windows. Donc, merci à tous et au mois prochain.
Ciao.
Hey, salut.
Salut.